Vous êtes 4 600 000 des caissiers, agriculteurs, agents de sécurité, éboueurs, chauffeurs routiers, quasiment privés de télétravail du fait de leur activité. Ces travailleurs de deuxième ligne ont été salués pendant la pandémie, remerciés par le président de la République, récompensés pour certains par la prime dite Macron, jusqu'à 2000 euros défiscalisés. Et pourtant, ça ne suffit pas. Confrontés à l'inflation galopante, à des salaires parfois très bas, à des négociations difficiles sur les rémunérations, les 17 catégories de travailleurs essentiels sont appelées à se mobiliser ce jeudi par le syndicat CFDT. Pour faire le point sur leur situation et les évolutions possibles, avec nous aujourd'hui, Christine Herel, professeure au Conservatoire National des Arts et Métiers, directrice du Centre d'études de l'emploi et du travail et autrice d'un rapport remis récemment à la ministre du Travail. Bonjour.
Bonjour.
Vos questions et vos témoignages, chers auditeurs, 01 45 24 7000. Je le disais, Christine Herel, il y a déjà eu une mesure en faveur des travailleurs de deuxième ligne à la prime Macron. On peut ajouter aussi l'indemnité inflation, les mesures sur le carburant. Ça ne suffit pas ?
Alors, ce ne sont pas des mesures qui sont ciblées sur les travailleurs de la deuxième ligne. En fait, la prime PEPA, dite prime Macron, effectivement, cette année, elle prévoit une prime qui peut être plus élevée pour les travailleurs de la deuxième ligne. Mais il est très difficile de savoir qui en bénéficie réellement, puisqu'en fait, elle est quand même ouverte à tous les salariés.
On n'a pas de chiffres, en fait.
Alors, on a des chiffres de dépenses globales, donc qui est 780 millions d'euros en fin d'année 2021. Parmi ces dépenses, on ne sait pas exactement ce qui revient aux travailleurs de la deuxième ligne de manière spécifique.
Et combien sont concernés ?
Et combien sont concernés par ailleurs ? Effectivement, on n'a pas de données sur le nombre de personnes qui sont concernées par ces primes.
Question de Christian au Standard de France Inter. Bonjour Christian.
Oui, bonjour. Je vous remercie de prendre cet appel.
Allez-y, on vous écoute.
Alors la question, c'est surtout une suggestion. Pourquoi est-ce qu'on parle des travailleurs de seconde ligne ou de deuxième ligne ? Parce que bon, ben, si on dit deuxième, ça veut dire troisième. Pourquoi est-ce qu'on parle des deuxième ligne pour les ouvriers, les travailleurs qui sont en fait en première ligne ? Parce que sans ces éboueurs, sans les gens qui travaillent dans l'agriculture, eh bien l'économie française se casse la figure. Il est bien clair.
Question de définition. Merci Christian.
Voilà, oui.
Christine Herel.
Merci pour cette question. Alors moi je suis totalement d'accord avec vous. En fait, les travailleurs de la deuxième ligne, c'est un concept qui a simplement été issu du discours du président de la République pendant le premier confinement, mais qui est une métaphore un peu guerrière. La réalité du travail de ces personnes, bien au-delà de la pandémie, c'est le fait que ce sont effectivement des travailleurs essentiels, ou bien encore ce que nous on a dit dans le rapport, des travailleurs de la continuité économique et sociale, c'est-à-dire ceux qui font que notre vie à tous est possible.
La première ligne, c'était les soignants. Et
voilà,
la deuxième ligne,
c'était les catégories effectivement énoncées par le président de la République pendant le premier confinement.
Et il y a même une classification assez précise en fait de ces travailleurs dits de deuxième ligne que la CFDT appelle aujourd'hui travailleurs essentiels.
Alors, il n'y a pas de classification officielle. On a cherché en fait à les définir, à essayer de voir qui on pouvait effectivement mettre derrière ce terme. Et donc, on a cherché à les identifier au travers de critères un peu objectifs qui sont le fait d'avoir continué à travailler en présentiel pendant effectivement le premier confinement, et le fait d'avoir été aussi potentiellement exposé au virus parce que ce sont des métiers avec des contacts avec le public ou des contacts entre équipes de travail qui sont assez étroits aussi.
Et sur la prime Macron, vous disiez elle n'a pas été ciblée sur les travailleurs de deuxième ligne, ils avaient quand même le droit à un peu plus de primes défiscalisées que les travailleurs classiques, puisque c'est 2000 euros contre 1000 pour les autres salariés.
À condition que dans l'entreprise ou dans la branche, il y ait une négociation, en fait, pour améliorer effectivement et revaloriser les conditions d'emploi et de travail de ces travailleurs de la deuxième ligne. Donc, toute la question, ce sera quand on en fera le bilan exhaustif, de savoir effectivement combien d'entreprises, combien de branches ont réellement négocié pour permettre l'utilisation de ce dispositif.
La principale problématique aujourd'hui, ce sont les salaires. C'est vrai qu'on voit encore la l'INSEE qui publie des chiffres de l'inflation, 2,9% le mois dernier. On est vraiment sur une question de rémunération.
Alors dans le contexte actuel, c'est ça dont on parle le plus, parce qu'effectivement il y a ce contexte avec une inflation plus élevée, et puis il y a aussi le fait que les rémunérations ont quand même peu progressé dans les dernières années du fait de la crise sanitaire, et puis du fait que plus largement on était dans une logique de modération salariale, donc dans une logique où il y a peu de gains effectivement salariaux pour les personnes en général et en particulier pour ces métiers-là. Et donc c'est légitime que cette question se pose aujourd'hui lorsque l'inflation repart.
Vous parliez des branches tout à l'heure, des secteurs d'activité. En fait, c'est à ce niveau-là que les salaires vont se négocier, qui se négocient en ce moment. Dans certaines branches, ça marche, dans certaines branches, ça bloque.
Oui, effectivement. Donc la tendance actuelle, c'est une montée des revendications salariales.
On le voit, beaucoup de conflits sociaux.
Dans toutes les branches, avec effectivement des conflits sociaux, notamment dans des métiers qui sont des métiers tendus, dans lesquels les recrutements sont difficiles. Donc là, ça va bien au-delà des travailleurs essentiels dont on parle là. C'était le cas dans les hôtels, cafés, restaurants, par exemple, aussi récemment.
Où il y a eu un accord.
Mais donc du côté des travailleurs dits essentiels ou continuité économique et sociale, pour le moment, il y a peu d'accords qui ont été signés ou des accords avec des augmentations qui sont faibles. Celles qui ont été signées en 2021, ça reste des augmentations faibles, le plus souvent en dessous de 3%. Donc on n'est pas sur quelque chose qui permet une réelle revalorisation. Il faut encore continuer sur ces métiers-là.
Où est-ce que ça bloque particulièrement ?
Alors, vous voulez dire en termes de métiers
de
ou
secteurs d'activité ?
Alors, sur les secteurs d'activité, donc je vais peut-être donner les exemples positifs. Il y en a qui sont engagés effectivement dans des négociations, par exemple dans le secteur de la sécurité, sur des augmentations qui sont des augmentations possiblement importantes,
c'est-à-dire jusqu'à 10%.
Voilà. Dans le secteur de la propreté, il y a aussi des négociations qui sont en cours avec une volonté d'aller plus loin que ce qui a été fait l'année dernière. Dans l'aide à domicile, il y a eu aussi des augmentations importantes qui ont été décidées. Donc, bon, il y a des choses qui se passent. Mais après, effectivement, il y a beaucoup de branches où les négociations bloquent, par exemple les transports, les négociations bloquent. Après, c'est difficile de savoir exactement pourquoi. Ça tient à la fois à la situation des entreprises, ça tient à l'état du dialogue social qui n'est pas le même dans toutes les branches. On a des branches où le dialogue social est vraiment de bonne qualité, où il y a donc une culture de la conclusion d'accords, et puis d'autres où c'est beaucoup plus difficile.
Mais quel est le problème ? C'est le patronat qui ne joue pas le jeu ? C'est les salariés qui ne savent pas exprimer correctement leurs revendications ? Ça vient d'où ?
Ça vient de cet ensemble de facteurs, en fait. C'est à la fois effectivement des acteurs qui sont présents, du fait que souvent on a un patronat qui peut être divisé, qui du coup a du mal à se mettre d'accord. Et puis en face, effectivement aussi, des organisations syndicales qui elles-mêmes sont souvent divisées. C'est souvent la division qui pose problème, en fait, dans la conduite de ces négociations de branche.
Pourtant, le rapport de force à ce jour, il est plutôt en faveur d'une évolution à la hausse des rémunérations, parce qu'on voit, hein, les entreprises, beaucoup de bons résultats, la croissance à 7%, la pénurie de main-d'œuvre, les taux de marge des entreprises qui sont à 34% l'an dernier. C'est difficile dans cet état de fait-là pour une entreprise de dire non, je n'augmenterai pas vos salaires.
Oui, c'est ce qu'on voit d'ailleurs actuellement, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal d'entreprises où la négociation se fait et où il y aura des augmentations. Mais il faut voir qu'il y a quand même aussi des points et des difficultés qui peuvent survenir. Par exemple, donc quand on parlait tout à l'heure de la propreté ou de la sécurité, ce sont des métiers dans lesquels automatiquement, si on augmente les salaires, ça va se répercuter sur les prix, puisque c'est là en fait la seule variable d'ajustement que peuvent utiliser ensuite les entreprises. Ce qui en soi n'est pas un problème, mais il faut accepter du coup que le prix de ces services soit plus élevé. Et donc il faut que quelqu'un paye au final pour ces services plus élevés.
Le consommateur de services potentiellement.
Voilà, donc typiquement le consommateur de services, l'usager, ou même l'État quand il s'agit d'appels d'offres publiques. Donc voilà, il y a une logique en fait d'augmentation des prix qui doit aller avec ces augmentations de salaire.
Et justement, le discours du gouvernement depuis déjà plusieurs mois, c'est de dire effectivement il faut encourager ces augmentations de salaire. Qu'est-ce qu'il peut faire le gouvernement si ça n'avance pas ?
Alors, le levier principal dont dispose le gouvernement, au final, ensuite, c'est le salaire minimum, hein, c'est l'augmentation du SMIC et le coup de pouce sur le SMIC. Si vraiment les choses restaient bloquées et qu'on n'a pas de progression pour ces métiers, c'est ça le levier principal.
Ça vise pas seulement les travailleurs
essentiels. Non, c'est pas spécifique. C'est encore quelque chose qui est plus large. De toute manière, il est quand même difficile de cibler les travailleurs essentiels, à moins de effectivement être vraiment. Et c'est ça, pour ça que c'est important aussi d'être sur le dialogue social, où là, on peut plus précisément cibler certains métiers et certaines conditions de travail et d'emploi qui posent problème.
Et le SMIC, justement, ça fait partie des propositions des candidats à la présidentielle. Ils visent presque tous une augmentation. Jean-Luc Mélenchon, Christiane Taubira. 1 400 €, il est à 1 270 environ aujourd'hui net par mois. Anne Hidalgo, 1 450 au Parti communiste et chez les écologistes, c'est plutôt 1 500 €. Et puis Valérie Pécresse veut carrément augmenter l'ensemble des salaires de 10% quand ils sont inférieurs à 4 000 €, je crois. Quel est le levier le plus efficace d'après vous ? Il faut viser très très haut ? Il faut aller tout de suite à 1 500 ? Comment on fait ?
Alors, on peut pas aller trop vite si on parle d'augmentation du SMIC, mais ensuite, il faut avoir une logique de progression. Dans ce cas-là, il faut s'inscrire sur une logique de progression qui peut être aussi pluriannuelle. Là, on voit, si on regarde les exemples étrangers, il y a beaucoup de pays qui sont engagés dans des augmentations de leur salaire minimum. L'Angleterre, ça fait déjà plus de 5 ans qu'elle y est engagée. Ça a déjà augmenté de plus de 30%. Ils sont en train encore de l'augmenter. En Allemagne, on a aussi un projet d'augmentation important à au moins 15%. Mais tout ça, ça se fait quand même de manière progressive. Ça peut pas être une marche en une seule fois. Mais disons qu'il peut y avoir effectivement un mouvement annoncé d'augmentation du SMIC. Et je pense que, mais ça suffit pas. Il faut aussi avoir en parallèle des discussions sur effectivement ces négociations salariales, donc au niveau des branches. Une sans doute aussi une conférence nationale sur les salaires pour pouvoir réfléchir avec les partenaires sociaux sur la progression des salaires et des grilles salariales.
La pression un peu pour faire avancer ces négociations, elle peut se faire sous forme de sanctions aussi ou pas du tout?
Alors les sanctions c'est compliqué, on peut imaginer, un des problèmes dans certaines branches c'est le fait qu'on a des minima de branches qui sont en dessous du niveau du SMIC. Mmh. Ça signifie pas, pour que les auditeurs comprennent bien, que les gens en question sont payés en dessous du SMIC, ils sont payés au SMIC, mais ça signifie que les possibilités de progression sont très limitées, puisque du coup tout le monde se retrouve en fait au même niveau de salaire. Et ça c'est vraiment quelque chose qui pose un gros problème et sur lequel là l'État pourrait intervenir. On peut imaginer effectivement une loi qui fasse que si les minima en question ne sont pas revalorisés, eh bien au bout d'un moment le SMIC va s'appliquer effectivement à ces échelons de base, et donc avec une augmentation de fait de l'ensemble de la classification. Ça c'est une possibilité. C'est difficile de le faire de manière générale, mais en tout cas sur certains points spécifiques, oui, on peut avoir des obligations qui sont introduites.
Question de Françoise au Standard de France Inter. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, voilà, quand j'ai eu besoin d'aide à domicile, j'ai vu arriver des allocataires du département en minima sociaux, non formés, non professionnels, à qui on donnait quelques heures d'aide à domicile pour compléter leur allocation. Donc, moi, je voudrais attirer l'attention sur la responsabilité du département dans la dévalorisation de ce métier.
Alors,
et bien sûr, du salaire de ce métier.
Merci Françoise. Il faut préciser que l'aide à domicile, il y a eu une augmentation qui a été actée l'année dernière de 16%, je crois. Christine Herel, qu'est-ce que vous répondez à Françoise?
Eh ben, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, si on veut revaloriser ces métiers, ça veut dire qu'il faut accepter que leur prix soit plus élevé et donc que la charge payée, y compris par les acteurs publics qui financent des aides pour par exemple, la prise en charge de l'autonomie des personnes âgées, il faut accepter que ces aides augmentent. Donc, il y a une charge dans ce cas-là pour les départements qui forcément sera plus élevée.
Alors, je précise, Christine Herel, que dans votre rapport qui est assez imposant, il y a aussi des propositions pour améliorer les conditions de travail, notamment la création d'un compte épargne temps, etc. pour ces salariés de deuxième ligne. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'être entendu par les partenaires sociaux, par le gouvernement?
Je pense que c'est un sujet sur lequel effectivement on entend pas mal de choses en ce moment. Alors beaucoup centré sur la question des salaires. Je pense qu'effectivement il y a toutes les autres dimensions qu'il faut pas oublier, qu'on évoque dans le rapport, et notamment toutes ces questions de contraintes horaires qui pèsent beaucoup sur la vie de ces salariés et qu'il faut chercher à prendre en compte et à compenser. D'où effectivement la proposition de compte épargne temps par exemple.
Et vous espérez être entendue.
Bien entendu.
Christine Herel, directrice du Centre d'études de l'emploi et du travail, professeure au Conservatoire national des arts et métiers. Merci de nous avoir répondu sur France Inter.